à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Foi, chemin de liberté en compagnie de Raymonde Richard. Bonjour Raymonde.
Bonjour Émilie, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, comme sujet de réflexion et paradoxalement, enfin on le verra, sujet également spirituel, on va parler de l'actualité.
Oui, voilà, de la loi sur le séparatisme, puisque elle vient en ce moment être discutée par les députés. Et c'est une loi qui concerne, qui concerne la société tout entière et les chrétiens aussi, puisque le séparatisme religieux, on voit mal en France imaginer de faire une loi spécialement pour tel ou tel, alors que dans certains pays, ça se fait. Je pense en Suisse, par exemple, on a interdit les minarets, c'est clair. Voilà, on veut pas de... Bon, on interdit les minarets, on ne s'est pas occupé des clochers des églises. De toute façon, maintenant, je crois qu'on ne construit plus d'églises. Mais enfin. Loi sur le séparatisme. Et il se trouve que, finalement, elle stigmatise les croyants. Elle stigmatise les musulmans, certes, puisque... Bon, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt pour voir que cela concerne l'islamisme radical. Mais il me semble que si on veut lutter contre l'islamisme radical, pourquoi va-t-on réveiller des vieux démons, je dirais des vieux démons de la République française, notamment revenir sur la loi de 1905, voire sur celle de 1901?
Alors justement, est-ce que cette loi, est-ce qu'elle était nécessaire par rapport à cette fameuse loi de 1905 qui finalement est assez complète ?
Assez complète et assez équilibrée, mais c'est vrai que la loi de 1905 concernait la séparation de l'État et de l'Église. Et à l'époque, l'Église en question, dont il était question, c'était l'Église catholique. Mais c'est vrai aussi que, du coup, il y a eu aussi... Elle concernait aussi les autres religions présentes sur le territoire, les autres religions chrétiennes, la religion juive. Bon, et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup ni d'hindouisme, ni de musulmans.
Alors, cette loi sur le séparatisme, elle pose un certain nombre de questions. On va évidemment pas pouvoir tout aborder
non,
en détail,
sûr.
Mais il y a un certain nombre de points sur lesquels vous vouliez revenir, et notamment les enfants scolarisés à la maison. Alors là, ça concerne finalement, je dirais pas beaucoup de familles, mais quand même un certain nombre de familles qui ont choisi cette façon d'enseigner.
Oui, c'est ça. Alors, sous prétexte de dire on veut... prévenir de l'écartement de la scolarité des enfants musulmans qui sont pris dans des écoles très spécifiques, et quelque chose qui est somme toute minoritaire, mais qui existe. On a, dit, eh bien, on ne veut plus qu'il y ait l'enseignement confié aux familles. Alors là, ça c'était dans les projets de loi, et on est revenu parce que, de fait, quand on étudie les cas d'autorisation administrative, puisque actuellement, il y a des enfants qui sont éduqués dans les familles, alors ce sont des enfants qui ont des activités spécifiques, de la musique, par exemple, à un très haut niveau, donc ils font 4 heures de piano par jour, ça n'est pas compatible avec un horaire scolaire non aménagé. Il y a des enfants qui sont handicapés.
Oui, c'est ça. Donc, qui ont des besoins spéciaux et qui ne peuvent pas être accueillis à l'école.
Qui ne peuvent pas être accueillis à l'école de tous. Il y a aussi des enfants qui sont éloignés ou qui ont une culture différente et qui veulent apprendre une langue. Donc, quand ils sont dans les Charentes, je dis n'importe quoi là, et qu'ils veulent apprendre le japonais et puis je ne sais trop quelle spécialité parce qu'ils ont des racines japonaises, eh bien, c'est vrai qu'il vaut mieux qu'ils soient éduqués en partie dans les familles. Tous ces cas sont reconnus puisque il y a une autorisation administrative à demander. Mais et c'est là aussi, je me pose la question, pourquoi n'applique-t-on pas la loi telle qu'elle est déjà ? Enfin bon, admettons, voilà. C'est vrai que mettre tout le monde à l'école de la République, ça permettait une mixité scolaire, encore que maintenant, dans la mesure où dans les quartiers, il y a une espèce de ségrégation qui s'instaure.
Oui.
Et du coup, même lorsqu'on va à l'école du coin, on est dans certains cas avec uniquement les gens de son milieu et de sa culture, au point que je me souviens d'une institutrice qui me disait « il y a un vêtement qui restait » et puis les enfants ont dit « mais non madame, c'est aux Français ».
Donc, oui, voilà.
Dans la loi, il y a aussi d'autres aspects, le financement des associations. Alors ça, c'est peut-être intéressant de dire « on va surveiller le fait qu'on ne puisse dans une association, recevoir des dons de plus de 10 000 euros, je crois qu'il faut vraiment faire une déclaration spécifique. Mais finalement, par les biais fiscaux, on pouvait tout à fait contrôler ces choses. Sauf que lorsqu'il y avait véritablement un financement étranger,
oui.
Il est difficilement saisissable. Et lorsque l'étranger, c'est l'Arabie Saoudite, au fait, nous avons des équipements sportifs qui appartiennent à l'Arabie Saoudite quasiment. Donc, je vois pas. Enfin, je veux dire que sous couvert de neutralité du service public, de lutte contre la haine en ligne, on prend cette mesure et finalement, on fait porter une suspicion sur tous les croyants, ceux pour lesquels les choses s'étaient tassées, parce que finalement, la loi de séparation des églises et de l'État de 1905 n'a pas été très facile. Hein. Je crois que l'excommunication qui avait été lancée contre les gens qui ont voté la loi n'est toujours pas levée. Mais enfin, je pense qu'ils sont morts et ils s'en fichent.
Alors quand même,
pour la plaisanterie.
Effectivement, quand même, cette loi, elle pose, comme on le disait, un certain nombre de questions pour tous les croyants, y compris donc les associations. On a compris donc la partie financement avec les justificatifs demandés. Il y a aussi un contrôle des associations. Là, c'est une notion un peu plus complexe. Et il y a notamment le fait de faire signer un engagement aux associations, un engagement sur les principes républicains. Alors là, ça pose problème. Qu'est-ce que sont les principes républicains ?
Alors, c'est d'autant plus fumeux que déjà, par exemple, les écoles catholiques accueillent tous les enfants. Qu'au Secours catholique, selon ce que je connais et selon le règlement du Secours catholique, on accueille toutes les personnes qui sont dans le besoin. Alors, dans les associations d'éducation, je pense au scoutisme, on accueille tous les enfants. Donc, déjà, ce principe républicain, c'est-à-dire ouvrir l'association à tous, existait déjà. Alors, qu'est-ce qu'on... Et derrière républicain, est-ce que c'est l'application de liberté, égalité, fraternité, auquel cas, je vois bien. Mais dans ce cas, il faudrait peut-être contrôler aussi les plateformes financières qui se font autour de fondations qui hébergent ensuite telle ou telle association. Parce que finalement, d'où vient le financement ? Ce financement par fondation, qu'est-ce que c'est ? Là aussi...
Beaucoup d'opacité autour
beaucoup d'opacité,
de ces
questions. Donc, aller contrôler les associations chrétiennes ou les associations de croyants, au prétexte qu'il faut exercer un contrôle pour éviter le développement de cellules terroristes, je crois que peut-être c'est se tromper de cible.
L'autre problème soulevé par ces chartes à signer, c'est que en fait, ça dépend beaucoup des gouvernances à la fois au niveau national et au niveau local, parce que ça va peut-être changer en fonction des gouvernements.
Alors voilà, un gouvernement va nous dire, eh bien, la charte républicaine, cela veut dire que eh bien, vous ne pouvez plus intervenir dans le débat public. Et ça, cette idée de neutralité du service public, ça me paraît difficile de dire qu'un fonctionnaire doit être stigmatisant vis-à-vis des gens qu'il reçoit. Donc la neutralité du service public s'impose, me semble-t-il, de la part de l'État. Mais par contre, dans l'espace public, c'est pas simplement l'espace de l'État et des lois et de l'administration, mais c'est aussi l'espace de tout le monde où, eh bien, à la limite, toutes les expressions peuvent s'entendre. Et il y a actuellement ce... disons, cette espèce de tolérance qui fait que les uns et les autres n'empiètent pas sur leurs propres droits et qu'après tout, il appartient à l'État de faire régner la loi. Or, c'est vrai que dans certains quartiers, peut-être qu'il n'accomplit pas sa fonction. Enfin, pour l'Église, c'est non pas angoissant, mais lorsqu'on dit bien que l'Église, en tant que telle, puisqu'après tout, on est dans une radio chrétienne et moi, je suis catholique, qu'elle n'ait pas un rôle prescripteur de la loi. Je le conçois tout de suite, parce que la loi, elle est pour tous les hommes, et pour tous les Français. Mais je crois qu'il faut quand même entendre ce qu'elle propose.
Et justement, en fait, on revient là vraiment à la question de la place des chrétiens dans la société, dans la vie de la cité, comme on dit. Est-ce que les chrétiens ont un rôle à jouer quand même sur la place publique ?
Alors, les chrétiens en tant que tels, bien sûr, parce que finalement, lorsque on est bénévole au Secours catholique, on ne demande à personne son extrait de baptême. Et puis, lorsque l'on est dans cette radio chrétienne, on accueille des gens de tous bords et on ne leur demande pas ni leur extrait de baptême, ni leur comment ils sont mariés ou pas mariés. Enfin, bref, il y a des valeurs de la radio que tout le monde respecte, mais en dehors de ça, il y a un très grand respect et un très grand accueil très large. Et donc là, pourquoi pourquoi justement voudrait-on faire signer à Radio Grand Ciel, par exemple, ou bien aux écoles catholiques qui accueillent déjà tous les enfants, de nouveaux recueils administratifs sur le plan financier? Pourquoi instaurerait-on d'autres contrôles? Déjà, la paperasserie et les contrôles sont importants. Donc, si l'État et si les fonctionnaires qui sont à son service exercent bien leur travail, il n'y a pas de problème. Et puis, on peut s'étonner aussi de ce contrôle, par exemple, des fonds concernant les associations. Alors, effectivement, il y a de très grandes associations. Il y a des associations autour des mosquées. Donc, peut-être faut-il les contrôler. Mais peut-être conviendrait-il de contrôler aussi les sociétés qui expatrient au Luxembourg et dans d'autres paradis fiscaux leurs ressources. Donc, je crois que là, ça serait intéressant de
balayer devant sa porte,
d'aligner
très bien
la situation des uns et des autres.
Alors ça, c'était pour le rôle des chrétiens. Si on va un peu plus dans le détail, le rôle de l'Église, par exemple, de l'Église catholique.
Le rôle de l'Église institutionnelle, eh bien, quelquefois, je me dis merci l'Église institutionnelle, des évêques ou bien des théologiens qui ont approfondi les questions ou bien des biologistes pour leur apport à la société. Je pense par exemple au comité consultatif national consultatif d'éthique, lorsque des médecins et aux côtés des spécialistes médicaux, il y a des moralistes et il y a des théologiens. Il me semble que c'est important concernant le début de la vie ou la fin de vie, par exemple. La loi Leonetti avait, de ce point de vue-là, atteint un certain équilibre. Et l'Église n'était pas prescriptrice, mais elle est intervenue dans le débat, ainsi d'ailleurs que les autres religions. Dans ce comité consultatif, tout le monde a été consulté. C'est vrai aussi pour beaucoup de problèmes. Alors, citons le mariage pour tous. Là aussi, je me dis que ce n'est pas à l'Église de s'immiscer dans ce qu'il y a sous la couette de chacun, mais quand même, quand on parle de mariage pour tous, je pense qu'elle peut intervenir, dire son point de vue, et elle prescrit pour les gens qui suivent la religion catholique, par exemple, s'il s'agit de l'Église catholique, ou elle prescrit pour les juifs lorsqu'il s'agit d'interdits alimentaires, ou pour, enfin, bon, les églises disent ce qu'elles ont à dire, mais quelquefois, il faut laisser de côté ce qui est prescription pour leurs subordonnés et entendre quand même les remarques qu'elles font. Parce que moi, par exemple, quand je vois le libéralisme sur les mœurs, je me dis, mais quand même, si on continue, gestation pour autrui. Bon, ça existe dans certains pays, en effet, mais il me semble que c'est vraiment instrumentaliser les femmes. Donc que l'Église dise, au nom de la dignité de chaque personne, c'est important pour qu'il n'y ait pas des situations où des femmes soient instrumentalisées. C'est important pour les enfants de connaître leurs parents. Enfin, peut-être aussi qu'il y a ce caractère transcendant de la personne humaine que l'Église défend, me paraît quelque chose d'absolument fondamental. Donc, oui, merci à l'Église d'intervenir dans le débat public.
Alors, ça peut être le mot de la fin. Ne pas négliger le rôle de l'Église et son appel à la vigilance.
Voilà, et même trouver, dans certains cas, ce que prescrit l'Église a du sens. Je pense, par exemple, en ce qui concerne les migrations, lorsque le pape pose la question des migrants et pose la question de ces gens qui arrivent de pays lointains et qui, ce qu'on leur reproche, c'est de chercher finalement d'améliorer leur situation parce qu'elle est catastrophique. Je crois que peut-être c'est pas mal d'entendre l'Église. Donc, le rôle prescripteur de l'Église lorsqu'il s'appuie sur l'évangile de Jésus-Christ. C'est vrai que Jésus-Christ avait un rôle libérateur.
Merci beaucoup Raymonde et à bientôt pour une nouvelle émission.
À vous tous, je dis au revoir et à bientôt sur Radio Grand Ciel.